Et notre invitée ce matin, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière. Bonjour madame, merci d'être Bonjour. Avec nous. Vous êtes avec nous parce que ce week-end, c'est la fête annuelle de Lutte Ouvrière dans le Val d'Oise. On va parler un petit peu de positionnement de Lutte Ouvrière dans la gauche française. Mais avant, quelques commentaires sur l'actualité, notamment sociale. Ce matin, une centaine de militants écologistes ont tenté de bloquer l'Assemblée générale de Total qui est prévue dans Paris. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Est-ce que vous soutenez leur combat qui présente Total comme qui serait le grand responsable de tous les maux du monde actuel.
Tous les maux du monde.
Peut-être. Quand on les entend, on a un peu cette impression-là, l'écologie, le capitalisme.
Ils ont une écrasante responsabilité, c'est certain. Bon, Total Énergie, c'est le super profiteur, hein, il faut le dire. C'est 20 milliards de profits et c'est en effet une responsabilité écrasante pour ce qui est de la situation écologique, du réchauffement climatique. Et puis c'est aussi une responsabilité écrasante pour ce qui est de la flambée des prix. Parce que je tiens à dire quand même que Total est un de ceux qui ont fait justement, qui ont créé cette inflation aujourd'hui qu'on subit tous.
Fait des ristournes à la pompe.
Écoutez, cette toute petite ristourne, c'était effectivement symbolique pour nous faire avaler l'essentiel, c'est-à-dire l'augmentation de leur marge. Et le fait est que d'année en année, ils augmentent leurs bénéfices d'une façon. Enfin bon, ils volent de record en record.
Et des bénéfices qu'ils réinvestissent pour les énergies renouvelables.
Précisément
la transition avec le pétrole.
Précisément non. Précisément non, et moi je pense que ceux qui ont été présents devant l'Assemblée générale avaient raison. Ils avaient raison de dire, eh bien, non, aujourd'hui, Total continue d'avoir une responsabilité très grave dans ce qu'il se passe. Moi, je pense que les choix qui sont faits par Total aujourd'hui, de nouveaux forages, de développement finalement, de la vente de pétrole, eh bien, sont aussi importants finalement que les décisions que le gouvernement peut prendre pour la transition énergétique. Voilà, c'est vraiment un, comment dire, ils ont une puissance qui correspond à celle d'un État en réalité. Voilà, c'est une multinationale qui a cette puissance-là.
Et vous voyez donc moi, je trouve le même type de responsabilité qu'un État, alors que c'est une entreprise privée, c'est pas forcément.
Moi, ce qui me choque, c'est que bien sûr, ceux qui dirigent, ce sont des actionnaires qui vont demander toujours plus de dividendes et qui n'ont que faire de l'intérêt général
et de. Si vous arrivez au pouvoir, ça serait la nationalisation totale.
Ah, ça serait l'expropriation immédiate et on tiendrait effectivement un levier important pour enfin pouvoir véritablement planifier l'économie, l'énergie, etc. Et je pense que. Ça fait partie des perspectives communistes qu'il faut avoir en tête.
Autre élément d'actualité, la situation dans les services publics. Alors, Emmanuel Macron a employé le terme de décivilisation. Sans forcément reprendre ce terme, est-ce que vous partagez le constat d'une brutalisation dans les rapports sociaux? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour atténuer cette éventuelle brutalité?
Moi, je pense que l'utilisation de ce terme était quand même n'était absolument pas au hasard. C'est un procédé assez classique de reporter la faute sur les comportements individuels pour finalement cacher sa propre responsabilité. Parce que quand même, sur la dernière semaine, si vous prenez par exemple le meurtre de l'infirmière au CHU, le gouvernement n'a pas de responsabilité là-dedans, dans cette situation-là? Il n'a aucune responsabilité. Si vous prenez ce qui s'est passé, les menaces à l'encontre du maire de Saint-Brévin, le gouvernement n'a pas de responsabilité.
Il n'a pas de responsabilité, alors on peut lui...
Il a une responsabilité écrasante.
De ne pas soutenir assez le maire par rapport à l'infirmière. Qu'est-ce que vous lui reprochez, le gouvernement?
Ce que je reproche, c'est qu'il a laissé à l'abandon la psychiatrie hospitalière. Voilà, ce que je reproche, c'est qu'il a fermé des lits, c'est qu'il a enlevé des moyens. C'est vrai pour
tout. Sauf que cette personne était, a priori, correctement suivie d'un point de vue psychiatrique. Non, mais c'est pas forcément le cas de la psychiatrie. Elle est en manque de moyens. Mais pour cette personne-là, c'est pas forcément l'illustration.
Il va y avoir une enquête, parce que précisément, la question est... Est-ce qu'il prenait véritablement son traitement? Parce que tout le monde explique que c'était effectivement quelqu'un de gravement malade, qui y compris était dangereux parce qu'il avait déjà agressé, donc il avait un traitement à suivre, mais il n'était pas hospitalisé, c'était à domicile. Mais alors quels moyens les médecins avaient de suivre ce malade? Ça, c'est de la responsabilité, vous voyez, du gouvernement. Moi, j'entends les soignants qui travaillent dans la psychiatrie et qui expliquent qu'ils n'ont plus les moyens de travailler correctement, qu'ils voudraient faire leur travail, mais qu'ils qu'ils ne peuvent plus le faire et que finalement on court vers des drames. Donc non, là franchement, c'est une façon, vous voyez, pour le gouvernement de noyer le poisson. C'est ça la réalité. Alors bon, moi je suis absolument pas d'accord. C'est un clin d'œil aussi d'ailleurs à la droite et à l'extrême droite. Alors je veux bien.
À la droite certainement, à l'extrême droite on peut avoir un débat puisque c'est le titre en effet d'un ouvrage de Renaud Camus, théoricien d'extrême droite.
Alors après je.
Parce que l'Élysée dit que Emmanuel Macron c'est pas sa référence.
Après je veux bien que il y ait de plus en plus de tensions dans la société. Oui, la société elle est de plus en plus inégalitaire. Il y a beaucoup d'injustices et je dirais même qu'elle est de plus en plus inhumaine. Voilà, je prendrai deux exemples. Hein. Vous voyez, il y a une multiplication maintenant des vols dans les supermarchés de produits alimentaires. Alors des gens qui volent quatre tranches de jambon, hein, qui volent un petit bout de viande. Bon, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est le processus de décivilisation ou c'est la crise? C'est l'inflation qui nous fait les poches? C'est le fait qu'on n'arrive plus à vivre avec des salaires qui sont insuffisants? Je prends l'autre exemple. Ce qui s'est passé à Vert-Baudet, vous savez, cet entrepôt de...
Vous êtes très engagé dans le soutien des ouvrières.
Mais bien sûr, parce que ce sont des ouvrières à Vert-Baudet, dans le Nord, qui font grève depuis 2 mois, et c'est emblématique. Écoutez, elles sont payées autour du SMIC.
Et elles demandent une augmentation.
Elles demandent 150 euros parce qu'elles ont eu zéro d'augmentation générale.
Et encore une fois, c'est pas forcément la faute du gouvernement.
Alors que l'entreprise...
Dans le rapport avec son entreprise.
Alors que l'entreprise fait 11 millions de bénéfices, et on leur dit 0%. Il faut qu'elles se battent pendant 2 mois. Qu'est-ce qui fait le gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les CRS. Il envoie les CRS et il y a quand même eu une ouvrière qui s'est retrouvée à l'hôpital. Il y a et puis il y a eu un délégué syndical qui s'est retrouvé effectivement intimidé, menacé, etc. C'est quoi ça? C'est la décivilisation ou c'est la responsabilité du patronat et du gouvernement? Alors voyez, moi tout ça, ça me révolte en fait.
Sur la question des retraites, ça s'agite beaucoup là en coulisses par rapport à la proposition de loi du groupe Piot pour abroger cette réforme. Il y a la pression qui est mise sur Éric Coquerel en ce moment. Vous regardez ça de près ou vous dites c'est pas là que ça se joue pour pouvoir essayer d'abroger cette réforme que vous contestez?
Ah, il est certain que ce n'est pas cette énième péripétie institutionnelle qui va changer quoi que ce soit. Non, c'est évident. Moi, ce que je ressens, c'est que le scandale, il est toujours là. Hein. C'était scandaleux avant que la loi passe, c'est scandaleux maintenant, hein, parce qu'on sait très bien que ce sont des millions d'ouvrières et d'ouvriers qui ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout de leur carrière parce qu'ils vont se retrouver en invalidité à Pôle emploi ou RSA avant de parvenir à 64 ans. Ça, c'est scandaleux.
C'est ce que vous contestez depuis le début de cette réforme. Là, il y a le 6 juin, une énième manifestation nationale à laquelle vous participerez, comme vous avez participé sans doute aux précédentes. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il faut accepter de tourner la page ou pas et se dire, on se donne rendez-vous à la présidentielle et les candidats, vous serez peut-être à nouveau candidat, vous direz, nous, on abrogera la réforme.
Non, clairement, on ne tournera pas la page. On ne tournera pas la page parce qu'on ne peut pas se résigner à cela. On ne peut pas s'y résigner, comme on ne peut pas se résigner à cette flambée des prix, à ces bas salaires. On ne peut pas l'accepter. Quand on voit, la société est riche, le gouvernement est en train de faire adopter une loi de programmation militaire qui augmente le budget de la défense de 16 milliards. C'est précisément l'argent qui manque pour les retraites. Donc tout ça, ce sont des choix. Mais véritablement...
Vous regrettez que le choix est fait de défendre le territoire français plutôt que d'essayer de...
Non, mais ce que je trouve...
De trouver une autre solution pour financer la réforme
de la retraite. Ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'a pas d'argent pour payer les retraites, pour payer les salaires, les hôpitaux, les écoles, les transports, etc. Et puis là, on nous dit, finalement, sans discussion, paf, allez, 16, 17 milliards de plus par an, ça ne se discute pas. Alors, s'ils nous préparent une guerre, qu'ils nous le disent, qu'ils l'expliquent, et contre qui?
C'est quelqu'un qui prépare une guerre contre nous.
Ah bon? Ah oui.
Préventif.
Bon, eh bien, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un gouvernement je pense que la société, ça reflète une société complètement folle et qu'il faut changer urgemment. Parce qu'en effet, on va de crise en crise, et là, il nous mène à la guerre.
Alors, pour changer, il faut se présenter aux élections. Vous présenterez une liste aux élections européennes, une liste strictement lutte ouvrière, sans d'alliance éventuelle avec la NUP?
Pour changer, je pense qu'il faut que le monde du travail se lève, comme ce qui s'est passé sur les retraites, et qu'il aille jusqu'au bout de ce combat. Jusqu'au bout de ce combat, inverser le rapport de force et contester, justement, le pouvoir de Total, de ces multinationales, le pouvoir de cette classe capitaliste. Donc, c'est ça. Et c'est ça que je porte comme politique, que je porte dans les mobilisations et que je porte à toutes les élections. Si vous voulez, pour nous, lutte ouvrière, c'est pas il n'y a aucun suspense. Nous courons sur toutes les balles et nous profitons de toutes les possibilités pour défendre cette politique. Et c'est vrai que, nous serons présents sans doute aux européennes, mais toujours avec cet axe-là. Et c'est ce qui nous différencie de la NUPES. parce que moi, je peux partager un certain nombre de combats avec les militants du Parti communiste ou de la France insoumise. Mais il y a une chose que je ne partage pas, c'est qu'il suffira de remplacer Emmanuel Macron. Il faut changer tout un système, le système capitaliste.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Bonne journée à vous.